du psautier. Il est présent 26 fois dans le psautier. La racine hébreu, c'est Ashré, qui dérive de la racine Achar, qui a pour sens fondamental la marche, le pas de l'homme sur la route qui conduit à Dieu. Donc il y a bien une idée de mouvement. Le bonheur, c'est comme une dynamique, un objet d'espérance et de quête. Quand la Septante a traduit l'hébreu vers le grec au IIIe siècle, on a traduit Ashré par heureux, ce qui donne une coloration hédoniste de plaisir, de satisfaction qui n'était pas dans l'hébreu. Chouraki, lui, traduit par en marche. Ça n'est pas totalement satisfaisant non plus. Disons que le juste essaie de s'ajuster à la loi, à la volonté de Dieu, s'engage dans une dynamique sur un chemin, et un chemin qu'il doit choisir. Je vous invite à prendre le premier psaume sur votre feuille. Alors, c'est vrai que, étant donné le temps dont je dispose, je ne pourrai pas vous faire réagir, c'est sûr, et je serai obligée d'avoir un commentaire très bref. Ça sera... On fait ce qu'on peut. Donc, le psaume 1. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Alors vous voyez dans ce psaume très nettement deux chemins, le chemin des justes et le chemin des pécheurs. Le chemin des pécheurs, c'est le chemin de ceux qui sont avec les méchants, de ceux qui ricanent. En fait, le chemin des méchants, c'est le chemin de ceux qui pêchent par la parole. Vous savez, quand on se confesse, quand on récite le « Je confesse à Dieu », péché par parole, par action, par parole. Ben là, c'est vraiment le péché par la parole. Et puis, le chemin des justes, c'est tout à fait autre chose. Vous voyez au verset 2, le juste, il se plaît dans la loi du Seigneur, il murmure sa loi jour et nuit. On est bien dans une familiarité, dans le fait de demeurer avec le Seigneur. Alors les conséquences sont différentes selon le chemin. Le chemin des pécheurs, il conduit à la mort. Au verset 4, ils sont comme la paille balayée par le vent. Alors que le chemin des justes conduit à la vie, à la fécondité, à la durée, avec la très belle image de l'arbre. Au verset 3, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Ce que nous retenons de ce psaume, c'est que le bonheur est un choix. Le choix du bon chemin, et il n'y a pas de troisième voie possible. on choisit le bon chemin ou le mauvais chemin. Et chaque personne, individuellement, est invitée à choisir. Nous sommes tous invités à choisir. C'est notre liberté et c'est notre responsabilité. Alors, grave responsabilité et lourde. Mais pour ce choix, l'homme n'est pas seul. Au psaume 24, « Il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin, il enseigne aux humbles son chemin. » Vous voyez que ce mot de chemin, on va le retrouver très très souvent dans les psaumes. Alors si on avance sur le bon chemin, on va donc avoir le bonheur. Alors, quel est le bonheur que donne le Seigneur ? Le premier bonheur pour le peuple, c'est d'avoir une terre. La terre promise à Abraham. Dans la Genèse, « Je donnerai en propriété perpétuelle à toi et à ta descendance après toi le pays de tes migrations, tout le pays de Canaan. » Et cette terre, le psalmiste la compare à une vigne soignée et chérie par le vigneron. Au psaume 79, « La terre que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations, tu déblais le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. » Donc, premier don, le don de la terre. Autre don, ce qui ne paraît pas étonnant, la victoire dans les guerres. Vous savez que le peuple hébreu, quand il est arrivé, après la traversée du désert, le pays était déjà habité. Donc, tout l'Ancien Testament est ponctué de guerres entre Israël et puis ses voisins. Donc la victoire dans les guerres, c'est vraiment une des causes de bonheur pour le peuple. Et puis, le bonheur du juste, il est aussi décrit au psaume 127, que je vous invite à prendre sur vos feuilles. Là, on a vraiment toutes les images du bonheur. Heureux, on est toujours dans les béatitudes. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. Vous voyez les différents éléments du bonheur du juste. Tu te nourriras du travail de tes mains. Donc, la terre, c'est souvent la terre, hein. La terre qui est féconde, la prospérité. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, tes fils autour de la table. L'autre don, c'est la famille. Des filles, au psaume 143, on dit « pareilles à des colonnes sculptées ». Des fils, heureux qui ont garni son carquois de telles armes, dit le psalmiste au psaume 126. Une femme, hein, une femme qui soit une bonne femme. Et puis aussi la longévité. Tu verras les fils de tes fils. On est dans un monde où l'espérance de vie n'est pas de 80 ans, hein. Donc, voir les fils de ses fils, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Voilà, donc le monde est en ordre. Si on est dans le bon chemin, on va avoir du bonheur, de la famille, de la prospérité. Et si on est dans le mauvais chemin, eh bien, on aura du malheur. Le monde est en ordre. Au psaume 83, « Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. » Tout va bien. Le juste a sa récompense en ce monde. Le méchant est puni en ce monde. C'est la loi de la rétribution. Alors rappelons-nous la conférence du Père Emmanuel l'an dernier. Pour le peuple hébreu, il n'y a pas de paradis ou d'enfer après la mort, mais le Shéol, lieu de l'absence de vie. C'est donc dans la vie terrestre que doit s'exercer la justice de Dieu. Cette loi de la rétribution revient souvent dans l'Ancien Testament, souvent sous forme de promesses. Un seul exemple, dans le premier livre des Rois, David mourant dit à son fils Salomon, « Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu, ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras. » C'est vraiment clair et net. Hein. Si tu fais bien, tu réussiras en tout. La rétribution, ça peut être aussi une source d'incompréhension et de tristesse. Par exemple, après une défaite devant les ennemis, au psaume 43, « Tu nous humilies, tu nous rejettes, tu ne sors plus avec nos armées. » Tout cela est venu sur nous sans que nous t'ayons oublié. Nous n'avons pas trahi ton alliance. Vous voyez la souffrance qu'il peut y avoir quand cette loi de la rétribution est mise en échec. Alors la loi de la rétribution, elle est toujours là au temps de Jésus. Par exemple, après la guérison de l'aveugle-né, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ? Donc le malheur est encore vu comme le châtiment d'un péché. Il nous arrive aussi, à nous, aujourd'hui, de dire « Avec tout ce que tu fais pour l'Église, tu n'aurais pas dû avoir cet accident. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un cancer ?» Vous voyez, on est encore là-dedans, hein, de temps en temps. On note pourtant dans l'Ancien Testament une ouverture à une autre conception. Par exemple, le livre de Job. Job est un juste. Il est par conséquent comblé de biens, de richesses, de famille. Or, il perd tout avec la permission de Dieu et il proteste de sa fidélité et de son incompréhension. La rétribution, c'est peut-être pas tout à fait ça. Et dans l'Évangile, la pauvreté de Lazare n'est pas du tout présentée comme une punition ou une malédiction, mais elle est présentée comme une injustice intolérable. C'est vu, la rétribution ? Et c'est vraiment quelque chose qui court encore. Hein. Maintenant, revenons au bonheur dans les psaumes. S'il est la récompense immédiate de la bonne attitude du croyant, du bon chemin qu'il a choisi, quelle est cette bonne attitude ? C'est d'abord une bonne attitude envers les autres hommes. Dès le psaume 1, « Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent. » Le juste évite la médisance, la calomnie, la moquerie, tous les péchés en parole. Il a aussi le souci des pauvres. Il ne vit pas pour lui-même, mais se montre attentif, les yeux et le cœur ouverts. Au psaume 40, « Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, le Seigneur le sauve au jour du malheur, Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre. Vous remarquerez en route qu'il y a encore la rétribution. Hein. Il le sauve, il le protège. Le juste est aussi artisan de justice et de paix. Heureux l'homme qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. C'est le psaume 105. Au psaume 33, garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. On remarque le passage des paroles, on parlait de la langue, de la bouche, des paroles aux actes. Évite le mal, fais ce qui est bien. Et on retrouve ça aussi au psaume 14, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice, qui dit la vérité selon son cœur, ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain, prête son argent sans intérêt. Donc vous voyez, le juste, il a des paroles en conformité, des actes en conformité avec des paroles et des paroles en conformité avec le cœur profond. Nous allons voir dans le psaume 111 que vous avez tout ce qui caractérise le juste. Alors, de nouveau, heureux, bien sûr. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture, cet homme jamais ne tombera. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Alors, rien de nouveau, hein. Encore le mot « heureux » qui commence le psaume. Et la certitude que le juste, c'est celui qui essaie de s'ajuster à la volonté de Dieu. Alors il s'ajuste comment ? En étant un homme de justice, de tendresse et de pitié, en partageant, verset 5, il mène ses affaires avec droiture. Et puis, au verset 9, à pleine main, il donne aux pauvres. Et on est toujours dans la rétribution. S'il se comporte de cette manière-là, eh bien, il n'aura que du bonheur. Alors, je voudrais qu'on fasse deux remarques. La première, c'est qu'il n'est pas dit heureux qui fait bien sa prière, qui va au temple, à la synagogue, qui va à la messe tous les dimanches. Ce qui compte, c'est l'attitude envers les autres. C'est la bienveillance, la bien-disance, la bienfaisance dans le quotidien. Pour le dire autrement, c'est la justice sociale. Les psaumes pensent, et les prophètes encore plus ou autant, qu'on ne peut pas être juste ou se dire juste si on se comporte mal avec les autres. Alors je vous renvoie à tous les prophètes, à tous les prophètes, voilà. En particulier Isaïe 58, voilà. Non, mais là, c'est pas fini. Alors, on a dit juste attitude envers les hommes. Aussi, juste attitude envers Dieu, mais c'est lié. Alors, la bonne attitude envers Dieu, c'est d'abord craindre Dieu. Heureux qui craint le Seigneur et aime entièrement sa volonté. Est-il un homme qui craigne le Seigneur ? Dieu lui montre le chemin qu'il doit prendre. Son âme habitera le bonheur. Le secret du bonheur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Donc, première attitude envers Dieu pour le bonheur, c'est de craindre Dieu. Alors, voilà un mot qui nous interpelle et qui nous fait peur parfois. J'entends de temps en temps craindre Dieu, ce n'est pas croire au Dieu de Jésus-Christ. Ce mot est présent 83 fois dans les psaumes. Cela mérite qu'on s'y arrête. La crainte de Dieu, c'est d'abord la peur d'une menace réelle, de la défaite devant les ennemis, de la colère de Dieu. C'est une crainte qui est présente dans toutes les religions. Mais c'est aussi et surtout ce qui unit la communauté des croyants. Les croyants, ce sont ceux qui le craignent. C'est l'assemblée réunie au temple pour rendre gloire à Dieu. Le croyant est conscient de la grandeur de Dieu et de sa propre fragilité. La crainte, c'est le respect et l'adoration devant le mystère de Dieu. La crainte de déplaire, c'est une attitude d'amour. La crainte n'est pas une charge ou une contrainte, mais une attitude qui conduit au bonheur et qui permet de regarder la souffrance non comme une malédiction, mais comme un avertissement. Donc la crainte de Dieu, dans ce sens-là, comme une attitude d'amour. Et cette crainte rend possible d'entrer dans une alliance avec Dieu, individuellement et collectivement. Dans Jérémie, je conclus avec eux une alliance éternelle. Je ne cesse de les poursuivre de mes bienfaits. Alors, dans votre feuille, vous avez deux petites citations du psaume 32 et du psaume 143. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine, heureux le peuple ainsi comblé, heureux le peuple qui a pour Dieu le Seigneur. On reconnaît l'initiative de Dieu, la nation qu'il s'est choisie pour domaine. C'est lui qui fait le premier pas, c'est lui qui fait le choix de son peuple par élection et par pure grâce. Et le peuple répond en disant « Tu es mon Dieu, heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureux le peuple qui a pour Dieu le Seigneur. » Donc, la bonne attitude, le bon chemin vers Dieu, c'est la crainte de Dieu. Cette crainte qui rend possible d'entrer dans son alliance, et c'est cette alliance qui permet d'arriver au bonheur. Et pour être fidèle à cette alliance, Dieu donne sa loi. La loi qui n'est pas non plus une contrainte, mais qui est une manière de garder la liberté. Dieu a fait sortir son peuple de l'esclavage en Égypte et il lui donne la loi pour qu'il ne retombe pas dans l'esclavage du péché. Alors, vous regarderez tout seul, le psaume 118, parce que le temps nous manque un peu. Donc, heureux celui qui respecte la loi du Seigneur. Et quand l'homme prend un mauvais chemin, au psaume 93, « Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi. » Un peu dérangeant, hein, « châtie ». Mais vous connaissez le dicton « Qui aime bien, châtie bien ». Dieu ne châtie pas comme un justicier impitoyable, mais comme un père qui réprimande et remet avec amour son enfant dans le droit chemin. D'ailleurs, dans la suite du psaume, le psalmiste dit « Ton amour, Seigneur, me soutient, tu me réconfortes et tu me consoles. » Au fur et à mesure de ce parcours, nous percevons bien que se dégage une nouvelle conception du bonheur, détachée de toute considération matérielle, non pas un dû à cause de nos bonnes actions ou de nos mérites, mais comme un don gratuit que Dieu fait à notre foi. Le psalmiste insiste souvent sur le bonheur de la confiance absolue. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux qui trouve en lui son refuge. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Bonheur dans la confiance. Dans la confiance quand il y a un combat contre les ennemis. Il y a de nombreuses occurrences des mots forteresses, boucliers, rochers, remparts, citadelles, armes de victoire. Au psaume 94, « Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. » Je voudrais insister aussi sur une autre forme de bonheur, c'est le bonheur du pécheur pardonné. Au psaume 31, c'est après le 118 sur votre feuille, au psaume 31, heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Il y a deux versets parallèles pour la même affirmation. L'acteur, c'est le Seigneur. C'est lui qui enlève la faute, remet le péché, ne retient pas l'offense. Le travail de l'homme, c'est de recevoir le pardon et de rendre grâce. Au psaume 70, joie sur mes lèvres qui chantent pour toi et dans mon âme que tu as rachetée. Au psaume 64, nos fautes ont dominé sur nous, toi tu les pardonnes. Ce bonheur du pécheur pardonné, c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est dans une gratuité. Le Seigneur pardonne à cause de son nom, à cause de son amour. Ce qu'il faut aussi qu'on voit, c'est le passage entre le bonheur individuel et le bonheur du peuple et de la communauté. Au psaume 22, « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » Ou 64, « Heureux ton invité, ton élu, il habite ta demeure. Les biens de ta maison nous rassasient, les dons sacrés de ton temple. » Alors là, c'est un peu une nouveauté par rapport à ce qu'on a dit jusqu'ici. On passe du singulier au pluriel, et le temple est le lieu privilégié pour la vie communautaire, la prière communautaire, et puis la rencontre avec Dieu. Alors, j'avais prévu ce très beau psaume 15, j'avais prévu le très beau psaume 15. Je crois que je vous le lirai tout seul. C'est pas compliqué et c'est très très beau. Très très beau. Et ce psaume 15, il dit et redit le bonheur d'être avec Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Mon partage est ma coupe. De toi dépend mon sort. La part qui me retient fait mes délices. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Le psalmiste est émerveillé par son bonheur d'être avec Dieu, et nous aussi nous sommes émerveillés par cette confiance et cette joie. Alors de temps en temps, elles peuvent nous paraître hors de notre portée. Le psalmiste aussi ne nage pas toujours dans le bonheur. Il y a des jours de persécution, de souffrance, où Dieu semble loin. Le psalmiste, de temps en temps, semble dire « On ne voit plus la sortie d'Égypte et les merveilles de la sortie d'Égypte, on voit plutôt la guerre et l'oppression. » C'est ce que nous disons aussi de temps en temps, hein. Les merveilles de Dieu, ouais, mais quel monde où nous vivons. Alors c'est important, c'est infiniment précieux de se souvenir du bonheur passé et des merveilles que Dieu a faites. Ceux qui ont un psautier, je vous renverrai au psaume 76. « Je me souviens de Dieu, je me plains, je pense aux jours d'autrefois, aux années de jadis. La nuit, je me souviens de mon chant. Le Seigneur ne fera-t-il que rejeter ? Son amour a-t-il donc disparu ?» C'est important de se souvenir des merveilles passées pour espérer qu'il y aura d'autres merveilles. Et dans la douleur, il reste aussi, plus précieux encore, le désir toujours renouvelé, la recherche incessante de la présence du Seigneur dans le soleil ou le brouillard, comme nous le chantions autrefois. Au psaume 26, « J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » Au psaume 41, « Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. » 68, « Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, tu seras l'allégresse et la joie de ceux qui te cherchent. » Le dernier psaume, c'est le psaume 62. « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres je dirai ta louange. Dans la nuit je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. » Repérez au verset 2 ce qui marque le désir de Dieu. « Je te cherche, mon âme a soif. Après toi languit ma chair. » Terre aride, altérée, sans eau. Quand on s'est baladé dans les campagnes, dans les moments de canicule et de sécheresse, je pensais toujours à ce verset parce que ça a vraiment du sens. Ce qui est intéressant aussi, c'est le jeu des temps de conjugaison. Alors, il y a des passés pour rappeler les merveilles de Dieu. « Je t'ai contemplé, j'ai vu ta force, tu es venu à mon secours, les merveilles de Dieu. » Il y a des présents pour dire la permanence du lien avec Dieu. « Je me souviens de toi, je reste des heures à te parler, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. » Et puis, il y a aussi une promesse, le futur, les conséquences, Maintenant que j'ai vécu tout ça, tu seras la louange de mes lèvres. Comme par un festin, je serai rassasiée. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Alors bien retenir la joie deux fois, la louange deux fois, plus bénir. Donc le psalmiste est dans le désir et dans la joie. Il est donc dans la louange et l'action de grâce. Il y invite tout le peuple, au psaume 94, « Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut, allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. » Il y invite aussi tout l'univers. Au psaume 95, « Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête, les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur. » Alors, question, comment l'univers, la création, peuvent-ils louer? Eh bien, c'est à nous d'être la voix de toutes les choses muettes pour qu'elles entrent dans la louange. J'ajouterais d'être la voix de tous les hommes qui n'ont pas le temps ou le désir de prier, afin que tout l'univers entre dans la louange. Et le dernier verset du dernier psaume, c'est « Et que tout être vivant chante louange au Seigneur ». Ça me paraît être l'ultime réponse, l'accomplissement du premier mot du psautier. Heureux celui qui demeure dans la louange. Alléluia. Ce sera mon dernier mot. Merci de votre attention.
Un grand merci, Yvette. C'était très beau. J'ai noté plein de choses. Je savais que j'allais apprendre plein de trucs, ça n'a pas raté. Alors, j'ajoute un tout petit point, un tout petit élément. Vous savez, dans la liturgie, à chaque messe, on a le psaume. Hein. On écoute le psaume et donc ce sera peut-être, à la suite de votre belle conférence, l'occasion d'être encore plus attentif à cette parole de Dieu qui nous est donnée chaque dimanche dans la liturgie, comme une réponse de l'Assemblée à la première lecture, notamment. Si vous voulez bien, on peut peut-être, si Yvette est prête à s'exposer au jeu, poser quelques questions, quelques réactions. N'hésitez pas, si vous voulez éclaircir un point, apporter un élément, contredire, tout est possible. Oui, j'arrive, ce sera peut-être plus facile avec le micro. Annie.
Je voudrais un éclaircissement par rapport à la crainte de Dieu. J'ai pas eu le temps de tout noter ce que vous nous avez dit à ce sujet.
Eh bien, on va peut-être faire répéter Yvette sur la crainte. Alors, c'est là que j'ai appris quelque chose, notamment, quand Yvette vous avait dit que la crainte, elle faisait aussi l'unité de la communauté, parce qu'elle était partagée par tous. C'est quelque chose que à laquelle je n'avais jamais prêté attention. Doctus cum libro, on dit. On est savant avec les livres, mais je suis sûr que vous allez y arriver sans.
Alors, la crainte, il y a deux sens. Le premier sens, c'est effectivement, j'ai peur de l'orage, j'ai peur de Dieu, j'ai peur de la défaite dans la guerre. C'est un sens qui existe hein, dans les psaumes et dans la Bible. Et il y a un deuxième sens qui est, j'ai conscience de ma petitesse, de ma fragilité et de la grandeur de Dieu. Donc, mon attitude devant lui, c'est l'adoration, c'est le respect. Vous voyez? Et comme ce respect et cette adoration sont partagés par le peuple, c'est ça qui façonne le peuple. Et très souvent dans les psaumes, on parle du peuple de Dieu en disant « ceux qui craignent le Seigneur ». Vous voyez, c'est ça qui fait l'unité, qui fait la communauté. Ce sont les gens qui croient au même Seigneur et qui ont cette attitude d'adoration envers lui. C'est bon? Ça répond à votre... Pardon? Oui. Et je vais quand même vous dire, la première fois où j'ai, où, dans un groupe, on a parlé de la crainte, il y a une petite dame à la fin qui a dit « C'est aussi la crainte de déplaire ». Et j'ai beaucoup aimé parce que ça montre que la crainte, c'est une attitude d'amour. C'est pas une attitude de terreur. Voilà.
Je voudrais rebondir avec ce mot de crainte, là, parce que dans ce psaume 111 qui commence par « Heureux qui craint le Seigneur », j'ai repéré qu'il y avait le mot « crainte » qui revenait encore plusieurs fois. Et il ne craint pas l'annonce d'un malheur, son cœur est confiant, il ne craint pas. Alors je voudrais savoir, parce que moi je ne parle pas hébreu, si c'est le même verbe en hébreu ou si c'est deux verbes différents.
Alors je vous rassure tout de suite, je ne parle pas hébreu.
Je ne peux pas du tout vous répondre parce que je ne parle pas hébreu.
Je parle un peu hébreu, mais je n'ai pas de texte.
Mais le psaume, justement, commente bien ce qu'Yvette vient nous dire, c'est-à-dire que c'est comme en français. Il y a des homonymes, enfin voilà, il y a un même mot qui va avoir des sens différents. Donc, dans un même psaume, on peut à la fois avoir cet aspect de crainte, c'est-à-dire de vénération, de respect pour Dieu, puis à la fois la peur. Et quand on dit heureux celui qui ne craint pas un malheur, clairement, là, c'est il n'a pas peur d'un malheur. Donc, ça peut être le même mot en hébreu et pourtant un sens différent. À mon avis, c'est ça. Mais. À vérifier, effectivement.
Je crois que c'est la même racine pour les deux.
Oui, je pense, mais je ne mets pas ma main au feu.
Ouais.
Oui, Yvette, est-ce que tu pourrais nous apporter une précision? Qui a écrit ces psaumes à quelle époque? Puisque entre le premier et le dernier, il y a quand même du temps qui s'est passé. Et on retrouve des émotions, je pense, différentes au fil des versets et des psaumes. Voilà, c'était ma question.
Il ne faut pas du tout croire que le psaume 1 a été écrit en premier et le psaume 150 en dernier. Hein. Ce n'est pas du tout ça. En fait, au départ, on a cru pendant longtemps que les psaumes étaient les psaumes de David. On s'est aperçu assez rapidement que c'était impossible parce qu'il y a des psaumes qui datent du temps de l'exil, qui est beaucoup plus tardif que David. Donc, on ne sait pas bien ni quand ils ont été composés, ni par qui. Ce que j'ai tendance à dire, moi, c'est que les psaumes, ils sont l'expression de la prière du peuple de Dieu. Ils ont été d'abord priés oralement et ils ont été mis par écrit, on ne sait pas très bien quand, mais peut-être très tardivement. Il y a même des exégètes qui disent qu'ils ont été mis par écrit au retour d'exil. Donc ils sont tous contemporains de l'histoire et de la prière du peuple de Dieu. Ça répond à peu près à ta question, Claudine ?
Vérification faite par l'abbé Emmanuel qui nous sauve avec son hébreu, c'est bien le même mot. C'est la même racine en tout cas, donc oui, voilà. Donc ça, ma tentative d'explication fonctionne au moins à peu près. Peut-être encore une ou deux questions ? Ça va comme ça ? On peut vous remercier à nouveau, Yvette.